Voilà. Donc, ce matin, nous allons continuer la deuxième partie du septième commandement que l'on a commencé la semaine passée. On a vu la semaine passée la partie implicite du septième commandement. Donc, on a passé la majorité de notre temps à parler du mariage, à définir le mariage. On a survolé les objectifs, les rôles du mariage, etc. Donc, je suis conscient que c'était un survol, ce n'était pas une étude en profondeur, mais assez pour nous donner une bonne idée de cette partie implicite du septième commandement. Mais comme on l'a vu, ça explique juste une portion ou une moitié du commandement. L'autre partie est la partie explicite, c'est-à-dire textuelle, littéraire, tu ne commettras pas d'adultère. Donc, la partie qui relate du péché sexuel, de l'impureté sexuelle. En particulier, l'adultère est un péché qui ne date pas d'hier, aussi vieux que l'homme, en fait, et qui encore aujourd'hui fait de graves dommages dans les familles, dans notre société et malheureusement aussi dans nos églises. On va voir ce matin qu'est-ce que c'est l'adultère selon la Bible, qu'est-ce que c'est l'immoralité sexuelle dans le cadre peut-être un peu plus du Nouveau Testament. Puis on va voir une définition biblique de la sexualité et aussi la gravité du péché et certains autres points plus pratiques. Allons dans un petit mot de prière avant de commencer. Merci Seigneur de ce temps que tu nous donnes dans ta parole. Nous te prions que tu puisses m'accompagner. Et accompagner, Seigneur, nos pensées, nos réflexions, que l'on puisse comprendre, Seigneur, avec notre intelligence et mettre en pratique aussi, à chaque jour, Seigneur, la beauté de ta parole, de tes commandements. Comme David, nous voulons nous plaire en celle-ci, sachant qu'elle nous approche de Christ et de la stature parfaite de Christ. Amen. Donc, vous avez, comme la semaine passée, une espèce de petit résumé de la prédication à l'intérieur de vos feuillets que vous pouvez utiliser. Il y a certaines petites choses qui ont changé. Je vais vous le dire en cours de route de toute façon. Mes titres ont changé un petit peu. Mais la structure générale reste plus ou moins pareille. Donc, ça vous permet de peut-être suivre un petit peu plus facilement, j'espère. Sinon, vous n'êtes pas obligé de l'utiliser. Donc, premièrement, ce matin, nous allons aller dans une définition de la sexualité biblique. C'est le point que j'avais laissé de côté la semaine passée parce que j'ai fait déjà beaucoup de matériel. Donc, on va le faire ce matin puisque c'est important avant de rentrer dans l'adultère, tout ça, de définir ce qu'est la sexualité biblique. Premièrement, je l'ai comme divisé en deux. Une petite portion que je voulais vous faire, une espèce de petit résumé historique en deuxième. Mais premièrement, on voit que c'est un acte de fonction et de plaisir à l'intérieur du mariage. Donc, on n'a qu'à lire le livre de Cantique des Cantiques, ou même certains psaumes, ou certains proverbes, pour comprendre que la nature de notre sexualité n'est pas nécessairement secrète ou mauvaise. Elle n'est pas un sujet tabou, obscur ou caché dans la parole de Dieu. C'est un sujet, en fait, c'est un des sujets qu'on parle très clairement, qui est souvent abordé et qui est souvent encadré. Donc, des fois, on est plus prude que la parole de Dieu l'est elle-même. Certes, notre sexualité devrait être discrète et sobre, dans le sens où elle devrait être vécue dans l'intimité du couple, mais néanmoins, la Bible présente la sexualité à l'intérieur du mariage comme une chose bonne et agréable à l'homme. Donc, notre société glorifie l'acte sexuel en rejetant son contexte légal et biblique, c'est-à-dire les liens du mariage. Dans le monde, la sexualité est tout sauf sobre et discrète. Le monde se vante de vivre dans le désordre, de vivre dans l'immoralité. C'est des choses dans lesquelles ils prennent plaisir. Puis on va voir un peu pourquoi plus tard. Pour la majorité des gens autour de nous, la pudicité que les croyants ont, qui n'est pas malsaine d'ailleurs, est vue comme une attitude du passé. C'est vu comme un manque de civilité ou d'évolution. On n'a comme pas évolué en même temps que tout le monde, puis On est resté. Ouais, c'est ça. Il nous faut donc, pour ces raisons, mettre de l'avant ce que la Bible dit de la sexualité. La Bible n'est ni pudique, ni grotesque ou crue quand elle exprime le rôle de la sexualité. Ce qui devrait maintenant être clair avec ce qu'on a vu la semaine passée sur le mariage, c'est qu'une sexualité juste est vécue seulement à l'intérieur du mariage, premièrement. Cependant, il y a plus à connaître sur le sujet et sur le septième commandement que juste cet aspect-là. Dans Lévitique 18, d'ailleurs, que je dirais qui est un peu comme la base à laquelle on devrait se référer au tout début, dans Lévitique 18, tout le chapitre est dédié à vraiment les bases, les barèmes de la sexualité dans le peuple juif, qui donne toutes les. Avec la belle-mère, avec la mère, le père, le fils, il donne tout le cadre de qu'est-ce qui n'est pas juste comme acte sexuel. Donc, en partant, si on veut savoir le cadre global là, de qu'est-ce qu'il ne faut pas qu'on fasse, on peut aller là. Je ne le lirai pas tout parce que c'est quand même un long chapitre, là, mais pour votre bénéfice, Lévitique 18, si vous voulez aller le lire. Mais on voit tout ce qui doit être considéré comme impudique ou immoral en termes de sexualité. On retrouve dans ce texte des impératifs négatifs, c'est-à-dire des situations où l'acte sexuel est immoral. Donc, des choses à ne pas faire, à prescrire. Évidemment, le premier but de la sexualité biblique entre un homme et une femme dans les liens du mariage, comme on l'a vu la semaine passée, c'est celui de la procréation, de la multiplication de la vie de l'homme en général. C'est un premier but sain, comme on l'a vu la semaine passée, c'est bon. La multiplication de la vie est nécessaire. La multiplication de l'homme est nécessaire à la vie. Donc, c'est un moyen par lequel Dieu a choisi que l'homme pourrait survivre d'âge en âge, de génération en génération. C'est le seul moyen d'ailleurs. Ben, c'est plus aussi vrai avec la technologie aujourd'hui, mais ça l'était pendant des centaines et des milliers d'années même. On peut tourner à la Genèse encore, hein? Tout commence toujours là. Genèse 1, 22. Qui nous dit: Dieu les bénit en disant: Soyez féconds, multipliez et remplissez les eaux des mers et que les oiseaux se multiplient sur la terre. Bon. Bref, la multiplication de l'homme et de pas mal toutes choses, d'ailleurs. C'est donc ça que j'appelle, quand je dis acte de fonction, la fonction, c'est ce que je veux dire. C'est la partie plus pragmatique, c'est-à-dire pragmatique, ça veut dire pratique, c'est la partie la plus pratique de la sexualité. C'est sa fonction première selon la Bible, c'est la première chose qu'on lit dans Genèse, c'est la première chose qui nous est dit sur la sexualité. Mais, ceci étant dit, je ne crois pas que c'est la seule fonction d'une sexualité saine au milieu du mariage. Dans Hébreux 13, 4, on lit que le mariage soit honoré de tous et le lit conjugal exempt de souillure, car Dieu jugera les impudiques et les adultères. Donc le mariage en soi et le lit conjugal exempt de souillure sont honorables. C'est-à-dire que la sexualité à l'intérieur du mariage doit être gardé des souillures du monde, mais ça veut aussi dire que c'est honorable quand c'est gardé des souillures du monde. Je dirais que la sexualité est aussi comme une espèce de, on peut voir ça comme une espèce de colle qui cimente la relation d'un couple marié ensemble et qui, par le fait même, les sanctifie dans leur relation. La sexualité à l'intérieur du mariage solidifie une relation déjà en santé. Peut faire beaucoup de mal à une relation qui n'est pas en santé, mais elle sert d'espèce de colle. La sexualité, qui d'ailleurs a été créée par Dieu, est aussi un acte plaisant, qui en soi donne un aperçu de la relation divine entre Dieu et son Église, quand elle est vécue de façon saine à l'intérieur du mariage. Je vais souvent répéter cette phrase aujourd'hui. Il n'y a absolument rien qui puisse nous faire croire que Dieu n'est pas l'auteur du plaisir dans la sexualité, ou qu'il n'approuve pas celle-ci quand vécue dans une relation maritale. Dans Proverbe 5, versets 15 à 20, un autre beau texte. Proverbe 5, versets 15 à 20. On lit « Bois les eaux de ta citerne, les eaux qui sortent de ton puits. Tes sources doivent, elles, se répandre au dehors. Tes ruisseaux doivent-ils couler sur les places publiques? Qu'ils soient pour toi seul et non pour des étrangers avec toi. Que ta source soit bénie et fais ta joie de la femme de ta jeunesse, biche des amours, gazelle pleine de grâce. Sois-en tout temps enivré de ses charmes, sans cesse épris par son amour. » Bref, je voulais juste vous lire ce passage pour vous démontrer un peu le langage poétique, à la fois romancé un peu et imagé de la parole de Dieu, souvent. Puis on s'entend, c'est clairement c'est pas nécessairement sexuel, mais c'est clairement romantique, c'est clairement dans le lien, une espèce d'imagerie, de métaphore du couple puis de l'amour. D'ailleurs, Matthew Henry commente sur ce passage en disant « Le mariage biblique est le moyen divin donné de Dieu pour garder les hommes du vice destructeur. » Donc le mariage, la sexualité, qui est une bonne chose, qui est plaisante au sein du couple, garde le couple du vice extérieur, de l'impudicité, de l'immoralité. Parce qu'on n'a pas besoin d'aller à l'extérieur de celui-ci pour retrouver un plaisir qui est sain. Dans le contexte, il parle d'une relation intime, pure et qui garde le couple des vices sexuels dans une relation saine de partage. Le langage des cantiques de Salomon nous pousse aussi à avoir une tendresse, une intimité très, je dirais, apparente et imagée dans l'acte sexuel. Je sais qu'il y a différentes positions là, sur ce livre-là, mais bien que imagée et symbolique, elle représente plus que la simple acte de procréation. La sexualité semble clairement relationnelle et plaisante pour le juste. Bon, j'ai pas fait l'exercice, mais si vous voulez, on peut tourner au premier chapitre de Cantique des Cantiques. Juste un petit peu après. Je suis pas mal sûr qu'on n'a pas à lire loin. Il n'est pas super long, il est dur à trouver. Bon. À partir du verset 2. « Qui me baise des baisers de sa bouche, car ton amour vaut mieux que le vin, tes parfums ont une odeur suave. Ton nom est un parfum qui se répand, c'est pourquoi les jeunes filles t'aiment. Entraîne-moi après toi, nous courons. Le roi m'introduit dans ses appartements. » Bref, vous voyez, là, c'est clair. Le langage employé est clairement très intime, très relationnel. Sauf que, à ce moment-ci, je me sens obligé de faire une parenthèse, dans le sens que, à notre époque, plusieurs pasteurs, c'est pas un mauvais jeu de mots, là, mais violent le texte de Cantique des Cantiques de façon horrible, je dirais, et prêchent des choses du haut de la chair qui n'ont aucun bon sens. Puis dans ce sens, je m'accorde avec M. John MacArthur quand il dit, et je cite, « En fait, le poème d'amour de Salomon incarne l'approche exactement inverse. C'est bien sûr un long poème d'amour conjugal et de beauté. Il est rempli d'euphémismes et d'images. Son objectif est de doucement, subtilement et élégamment exprimer l'intimité émotionnelle et physique de l'amour conjugal dans un langage adapté à tout public. » Il est devenu populaire dans certains milieux d'employer des descriptions extrêmement graphiques d'intimité physique comme un moyen d'exposer les euphémismes dans le Cantique de Salomon. Comme cette tendance se développe, chaque nouveau pasteur semble trouver quelque chose de plus choquant dans les métaphores du livre que tous ses prédécesseurs. Donc peut-être que vous ne vous sentez pas concerné, je ne sais pas. Mais moi, ayant accès à Internet, à me garder au courant un peu de tout ce qui se passe dans le monde évangélique, je vous dirais que c'est un grand problème présentement. Beaucoup de types d'églises qui veulent attirer des jeunes parlent de plus en plus de sexualité, mais font de ce livre un livre carrément pornographique quasiment, et le viol de son intention qui est de sobrement, doucement parler de la sexualité pour toutes sortes de personnes. Ils en font quelque chose de plus en plus choquant parce qu'ils sentent qu'ils ont le besoin de choquer les gens pour aller chercher les jeunes. Puis, en tout cas, en ce sens, il faut faire attention de ne pas tomber dans le piège de notre siècle, c'est-à-dire d'être irrévérencieux de la sexualité biblique et de rendre notre langage impudique et cru à cet égard. Donc, la sexualité ne devrait pas nous gêner en tant que croyants. C'est pas quelque chose qui devrait être gênant nécessairement quand on a une vie en règle. Mais comme tout autre acte privé, c'est avec respect et sagesse qu'on devrait l'aborder quand on en parle en public et avec les gens du monde. Bien que l'acte sexuel soit bel, soit saint, le but de la sexualité biblique n'est pas d'être une offense ou d'être un moyen d'exubération personnelle pour comme choquer les gens, puis les amener à l'église parce qu'ils sont jeunes, puis ils aiment ça entendre parler de sexualité. Puis ça les passionne qu'il y ait un livre de la Bible qui parle de sexualité de cette façon-là. Ce n'est pas le but. Donc faisons attention à comment on aborde cela. Je sais pas que c'est mal d'en parler, mais il y a une façon comme dans toute autre chose. Deuxième point, un petit résumé biblique des différentes visions de la sexualité biblique qu'il y a eu au travers un peu les âges, puis je veux pas prendre trop de temps sur ce point-là, puisque je suis pas un historien, j'ai pas passé des heures à étudier le sujet, mais dans mes lectures, dans mes études cette semaine, quand je lisais les commentaires, puis du passage, puis les livres, j'ai été surpris d'apprendre que, historiquement, les puritains et les réformateurs ont été responsables d'un renouveau, d'une vision plus biblique de la sexualité. Je vous dirais que même de grands théologiens très respectables comme Saint-Augustin, par exemple, avaient une vision extrêmement pudique de la sexualité, qui était typique de leur époque d'ailleurs, là, mais bien des hommes à cette époque considéraient la sexualité, même à l'intérieur du mariage, comme étant une espèce de mal nécessaire que Dieu tolérait. Ils voyaient comme ça souvent. Puis je cite M. Ryken qui dit dans son commentaire, la doctrine de la sexualité des puritains a fait une vague dans l'histoire de la culture de l'Ouest. Les puritains ont dévalorisé le célibat, glorifié le mariage et affirmé la sexualité à l'intérieur du mariage comme étant nécessaire et pure. Ils ont établi l'idéal d'un amour marital, romantique et exalté le rôle de la femme. Donc, je ne sais pas à quel point je suis d'accord avec tout ce qu'il dit, mais d'un certain sens, c'est juste pour vous donner une idée qu'on peut être fier de notre héritage réformé, dans le sens que les réformateurs ne voyaient pas la sexualité comme nécessairement quelque chose de mal ou d'obscur ou de bizarre, quelque chose qu'on ne parle pas vraiment, que c'est comme un mal nécessaire dans la vie du croyant. En fait, ils le voyaient comme quelque chose comme étant bon, comme faisant partie d'une relation saine et étant biblique. Et c'est ce qu'ils ont amené. Puis d'ailleurs, historiquement, quand on étudie un petit peu, on peut voir que même si ça n'a pas toujours été parfait, l'homme a continué à être pécheur, mais dans l'histoire, une des places où la femme a eu, je dirais, une juste valeur, c'est premièrement en Amérique, où est-ce que, quand les puritains sont arrivés, se sont mis à valoriser le rôle de la femme comme étant plus importante parce qu'elle n'avait aucune importance dans beaucoup de sociétés dans le monde. Mais encore aujourd'hui, dans beaucoup de sociétés dans le monde, la femme n'a aucune valeur, ce qui n'est pas le message de la parole de Dieu, comme on a vu la semaine passée. Différents rôles, mais pas différentes valeurs. Donc, le deuxième point, à date, je crois que je suis mes points, c'est bien. Vous, j'avais mis définir l'immoralité sexuelle, mais en fait, c'est plutôt définir l'adultère que je veux faire dans ce point-ci. Je veux pas aller trop large. J'ai comme je me suis contrôlé un peu pour pas qu'on finisse dans 3 heures. Mais quand même une vision un peu plus large dans le Nouveau Testament de ce que c'est l'adultère. Donc là, on rentre vraiment dans le cœur du commandement, bien que ce commandement parle directement d'adultère, bien sûr. Tu ne commettras pas d'adultère. Nous pouvons voir l'adultère comme faisant partie de la plus grande sphère des péchés sexuels, de l'immoralité sexuelle. Donc, évidemment, il fait partie de cette grande sphère de péché-là. Comme on va le voir aussi plus tard, Jésus, dans le Sermon sur la montagne, considère le regard comme étant un péché d'adultère. Donc, clairement, dans le Nouveau Testament, il y a un élargissement de ce que c'est l'adultère. C'est plus juste l'acte sexuel en soi. Donc, il en convient donc que l'adultère n'est pas strictement l'acte sexuel d'infidélité. Je suis d'accord avec M. J. Douma qui dit, je cite, « Quand nous discutons du septième commandement dans son contexte le plus large, nous devons nous demander comment il importe de vivre à l'intérieur de la relation maritale. » Fin de la citation. Donc, le septième commandement nous pose aussi la question, oui, il ne faut pas commettre l'adultère, mais comment faut qu'on vive dans le contexte du rôle marital, ce qui est un peu tout l'aspect qu'on a abordé la semaine passée. Donc, nous comprenons que l'adultère n'est pas simplement l'acte de voler la femme d'un autre, parce que souvent dans l'histoire, ça a été vu comme ça, de voler la femme de son prochain pour soi. Si ce serait le cas, ça tomberait en dessous du huitième commandement de toute façon qui n'est de pas voler. Mais ce qui rend le caractère du septième commandement unique, c'est l'aspect de trahison sexuelle à l'intérieur du mariage. Donc, ce n'est pas simplement un vol d'une personne. Il y a trahison du lien sacré du mariage, de l'alliance du mariage. Thomas Watson, le puritain en ce sens, dit que la somme de ce commandement est une préservation de la pureté corporelle. Donc, comme on va voir, la définition de Watson, je crois qu'elle est bonne, mais selon moi, elle est incomplète. Je crois que l'adultère n'est pas strictement corporel. Je pense que son choix de mots n'était peut-être pas le meilleur, mais elle est aussi mentale et spirituelle. Donc, votre point 3, qui est l'adultère défini, j'ai mis ces trois points. Donc, on peut voir qu'il y a trois types d'adultères différents dans la Bible. Il y a l'adultère corporel, c'est-à-dire l'acte physique de commettre l'adultère avec une autre personne. Il y a l'acte mental, ou qu'on pourrait aussi appeler moral, un adultère moral. Puis, il y a un adultère qui est spirituel. Donc, ce sont ces trois types d'adultères qui sont à éviter, je crois, si on veut vraiment obéir au septième commandement. Donc, commençons par le plus évident, c'est-à-dire l'acte corporel. Évidemment, c'est le plus simple et le plus direct en application du commandement. Et c'est en ce sens, nous sommes d'accord avec Thomas Watson quand il dit que la somme de ce commandement est la préservation de la pureté corporelle. Donc, en ce sens, on est d'accord avec cette portion-là. Le commandement a effectivement comme objectif la pureté sexuelle en ce qui a trait à la fidélité dans notre mariage. Donc, tout acte sexuel avec une autre personne que notre mari ou femme est par défaut un adultère et un bris du septième commandement. De se garder des souillures de l'immoralité sexuelle est une tâche importante pour que notre mariage, pour que notre couple puisse être florissant. Bien évidemment, le bris de ce lien sacré est aussi un bris de confiance. C'est une barrière énorme à la capacité du conjoint de pardonner. Surtout à cause de ce que ça implique, l'adultère. C'est une forme de rejet, si on veut, de notre partenaire. C'est aussi un péché qui souvent est caché longtemps, qui trompe la confiance de la personne. Donc, il n'y a pas juste l'acte sexuel, il y a tout l'aspect de tromperie, de cachotterie, d'intention en arrière de ça, puis le rejet qu'on vit à cause de ce péché. Donc, le caractère privé et personnel de la relation sexuelle qu'on a dans le mariage rend ce péché des plus difficiles à vivre dans un contexte tel que le mariage. Elle dérobe un fort lien de confiance qui existe entre les personnes d'un couple chrétien. Bon, petit partage personnel, parenthèse. Ça me fait penser, moi, puis. Mais, ben, je discutais avec Mélodie, je partageais, là, quelques temps, quand je travaillais, c'est ça. Quand je travaillais comme en comptabilité chez Fafard et Frères, comment les gens alentour de moi parlaient de leur couple, puis comment ils considéraient leur mariage, puis qu'ils avaient tout le temps l'air à avoir de la difficulté, des problèmes, puis je dis pas qu'on a un couple parfait et qu'on n'a jamais de problème, là. Ça n'existe pas, je pense. Mais comment qu'ils étaient tout le temps dans une espèce de pression de performance du couple. Puis je lui partageais, je disais, c'est drôle, je réalise la bénédiction que Dieu nous donne dans le mariage chrétien, dans le lien sacré du mariage chrétien, où est-ce qu'il y a une confiance, en tout cas, il devrait avoir une confiance vraiment. Tu sais, quand la Bible dit de ne pas soupçonner le mal, là, une confiance de vraiment que ton partenaire va désirer ton bien, chercher ton intérêt, puis. Mais il n'y a aucun de ça dans les couples du monde. Il y a des couples qui vont mieux que d'autres, oui, mais de façon générale, si on écoute les gens, c'est fou comment ils ont une pression sans cesse chaque jour. Le matin, ils se lèvent, puis inconsciemment, dans leur tête, il faut qu'ils performent pour garder leur couple. Il faut qu'ils performent pour garder la personne avec qui ils sont, parce qu'ils savent que s'ils ne le font pas, ils vont être remplacés assez facilement. Parce que c'est comme ça que ça fonctionne. Donc, il y a comme tout le temps une espèce d'aspect de performance dans le couple. Puis, si t'es pas assez bon, le prochain va être meilleur que toi. Puis, il n'y a pas comme ce lien de confiance-là. Puis, vous avez juste à aller chez un notaire ou un comptable, acheter une maison ou je sais pas quoi, faire un truc financier. Notre exemple est parfait, là, dans le sens que la maison, présentement, est juste au nom de Mélodie. Mon nom est nulle part sur le terrain ou sur la maison. Elle pourrait partir demain puis me ruiner. Puis le notaire m'a fait signer quelque chose pour être sûr que je comprenais qu'est-ce que je faisais là. Parce que lui, il catchait pas tout, tu sais, il pensait que j'étais fou là. Mais pour moi, je veux dire, je disais à Mélodie, si tu veux me ruiner, tu me ruineras. Tu sais, je veux dire, c'est pas. J'ai une telle confiance que j'ai pas besoin de m'armer contre ses intentions mauvaises, parce que je sais qu'elle a pas d'intentions mauvaises à mon égard. Puis ce lien de confiance qui existe dans le mariage chrétien est exceptionnel. Ça existe, je vous le dis, ça n'existe vraiment pas dans le monde. Les gens n'ont pas cette confiance. Et je crois que c'est à cause de ça que c'est une tragédie l'adultère. Parce que ce lien-là n'existe plus après que ça. Et ça brise ce lien de confiance, ce lien profond d'un mariage qui est solide, qui est ancré en Christ, dans laquelle les deux partenaires se font confiance et s'aiment mutuellement. Donc, j'ai pas. C'est ça, je lui partageais que je me sentais béni dans notre mariage, que je réalisais en écoutant les autres que j'étais béni dans notre mariage parce que je pouvais me lever le matin en me disant. Je m'inquiétais pas de si elle allait me laisser partir avec la maison puis les enfants. Je réalisais que j'avais aucune de ces inquiétudes-là. Ça me passe même pas par la tête. Et je crois que c'est bon, je crois que c'est sain. Les gens du monde nous appelleront fous et naïfs, là, mais je crois que c'est sain comme attitude. Donc, revenons, fin de la parenthèse. L'adultère brise toutes ces choses. Deuxièmement, l'aspect mental ou l'aspect moral. On sait que le commandement ne s'arrête pas simplement à l'aspect corporel de la sainteté sexuelle, parce qu'il implique aussi un aspect moral. Nous avons qu'à penser, par exemple, au sermon sur la montagne, où Jésus dit dans les quatre évangiles, « Vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras point d'adultère, mais moi je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis l'adultère avec elle dans son cœur. » Donc, dans ce contexte, que Jésus suggère. C'est dans ce contexte que Jésus suggère qu'il faut mieux se couper un bras si on est porté à voler, s'arracher un œil si on est porté à convoiter. C'est dans ce contexte-là qu'il dit. C'est ce qui vient tout de suite après si vous lisez La référence, c'est Matthieu 5, Matthieu 25, verset 27 jusqu'à la fin. Donc, de toute évidence, Jésus considère l'adultère comme plus que l'acte sexuel en soi. Il va même jusqu'à considérer la convoitise de la chair comme un acte d'adultère. Donc, malheureusement pour vous ce matin, si vous pensiez ne pas être coupable de transgression du septième commandement jusqu'à présent, vous l'êtes probablement maintenant. Donc, notre pensée est beaucoup plus difficile à contrôler que nos actions. Elle est également plus facile à cacher, ce qui la rend encore plus dangereuse pour nous. Bien que l'aspect moral ou mental de l'adultère a moins de conséquences réelles dans nos vies, là, il y a un aspect qui est pas aussi grave au niveau des circonstances que ça peut avoir, elle n'est pas pour autant moins grave aux yeux de Dieu ou plus morale que l'acte sexuel en soi. Puis vous savez, si votre conjoint remarque ces choses, ça va être aussi dévastateur que l'acte en soi. Bien qu'elle a des... Donc, nous devons tous s'armer de prudence et prier pour un contrôle de nos pensées. Vous savez, la pureté commence souvent dans notre tête et pas nécessairement dans notre corps. La Bible dit, c'est de notre cœur. En passant, quand la Bible dit de notre cœur, c'est pas de ça qu'elle parle, c'est de ça. Juste pour mettre ça au clair, mais c'est de notre cœur, de notre tête, de notre âme que les convoitises se propagent et que finalement on se livre à l'acte sexuel ultimement. Mais c'est ça qu'il faut garder intact en premier. Et donc, le troisième type d'adultère qu'on peut définir dans la Bible, qu'on peut voir, c'est finalement l'adultère qui est aussi envers Dieu. Donc, aussi étonnant que ça puisse paraître, l'adultère n'est pas strictement... Le mariage est strictement entre un homme et une femme, mais l'adultère n'est pas strictement entre un homme et une femme. Ça peut aussi être entre l'homme et Dieu. Donc, l'idolâtrie est entre autres une forme d'adultère spirituel. Ce langage et les multiples références à la prostitution d'Israël dans l'Ancien Testament nous démontrent ce principe assez clairement. Dans Jérémie 3, 8 et 9, 3, 8 jusqu'à 11, désolé, on peut lire, je vous lis. « Quoique j'eusse répudié l'infidélité d'Israël à cause de tous ses adultères et que je lui eusse donné sa lettre de divorce, j'ai vu que la perfide Judas, sa sœur, n'a point eu de crainte et qu'elle est allée se prostituer pareillement. Par sa criante impudicité, Israël a souillé le pays. Elle a commis un adultère avec la pierre et le bois. Malgré tout cela, la perfide Judas, sa sœur, n'est pas parvenue à moi de tout son cœur. C'est avec fausseté qu'elle l'a fait, dit l'Éternel. L'Éternel me dit, l'infidélité d'Israël paraît innocente en comparaison à la perfide Judas. » Donc, je voulais juste prendre ce passage-là pour vous imaginer que c'est fréquent dans la parole de Dieu, que Dieu accuse le peuple d'être prostitué, d'être infidèle, d'être adultère. C'est un langage qui est souvent spirituellement dit du peuple. Donc, on doit être fidèle dans notre mariage, mais on doit être aussi fidèle dans notre alliance, parce que notre relation à Dieu est une forme d'alliance. Nous pouvons donc être coupables de briser ce commandement à la fois spirituellement et moralement ou physiquement, à la fois envers notre partenaire, mais envers Dieu. Parce qu'on s'entend qu'un adultère contre notre femme, c'est aussi un adultère spirituel contre Dieu, qui a créé le mariage comme étant entre un seul homme et une seule femme. Mais aussi l'idolâtrie et l'adoration de d'autres dieux peuvent être une forme d'adultère spirituel. Donc, nous pouvons aussi être coupables d'adultère spirituel par amour du monde, selon Jacques. Dans Jacques 4, verset 4, ça dit « Adultère que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde sera ennemi de Dieu. Donc, d'aimer le monde plus que Dieu, c'est de commettre l'adultère spirituel. Donc, trois choses importantes à garder en perspective ce matin, pendant qu'on avance dans la prédication. Il y a trois types d'adultère qu'on a vu: corporel, l'acte physique, moral, l'acte dans nos pensées, dans le cœur, et l'acte spirituel qui peut être commis contre notre femme, mais surtout contre Dieu, c'est-à-dire d'aimer le monde, d'aimer des idoles, d'aimer quelque chose plus que d'aimer Dieu. C'est un acte d'adultère. Donc à ce point-ci, on devrait tous être coupables. Si on n'était pas coupable au numéro 1, on l'était au 2, puis là au 3, on l'est pas mal tout. Et c'est malheureux et on doit s'en repentir et demander au Seigneur de nous aider dans ça. Le quatrième point dans lequel on commence, c'était la convoitise sexuelle dans votre petite portion. Moi, je l'ai appelée la source de l'adultère. Mais vous avez un peu la réponse. Moi, j'ai mis la question, vous avez la réponse. Donc, la source de l'adultère, c'est la convoitise sexuelle, en partie. La convoitise, de façon générale, je dirais, non seulement sexuelle, est certainement le péché à la source de tout adultère, qu'il soit physique, mental ou spirituel. La convoitise sexuelle ou celle du monde nous pousse à briser le septième commandement. Donc, dans Jacques, encore 4, versets 1 et 2, on lit: D'où viennent les luttes et d'où viennent les querelles parmi vous? N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres? Vous convoitez et vous ne possédez pas. Vous connaissez le reste du passage. Donc, la passion, la convoitise qui habite en nous, dans nos membres, dans notre chair, est la source de ce péché de l'adultère, selon la parole de Dieu. Remarquez ici que c'est un très bon passage pour défendre le mythe moderne selon quoi l'homme est intrinsèquement, de façon naturelle, essentiellement bon. De toute évidence, Jacques ne considère pas la chair de l'homme comme étant naturellement bonne. Elle dit que c'est de là, de l'intérieur de nous, de nos membres, que cette passion de la convoitise vient. Donc, la convoitise, c'est quoi? C'est de désirer qu'est-ce qui n'est pas le nôtre. C'est une version très générale et simple, mais c'est de désirer ce qui n'est pas le nôtre. C'est aussi de considérer autre chose comme ayant plus de valeur que ce qu'on a déjà. C'est pourquoi l'adultère est difficile à accepter. C'est une trahison du lien du mariage, mais qui sous-entend un rejet de notre importance de l'autre personne. La convoitise est donc à la source de tout péché sexuel ou spirituel, d'adultère et d'amour du monde. C'est de dire non à ce que Dieu déclare comme bon pour suivre notre propre cœur, pour suivre nos propres désirs. Encore une fois, un peu comme la semaine passée, le moi, ma personne, vient avant Dieu. Et le désir personnel de s'accomplir ou de satisfaire son intérêt, son désir, qu'il soit sexuel ou spirituel, vient avant ce que Dieu demande. J'ai un peu changé l'ordre. J'ai mis le point qui est pour vous et le point 6, non, 5. Les sous-points du point 4, on va les faire plus tard. Donc, je veux voir pourquoi l'adultère est un péché grave. Et c'est peut-être un aspect un petit peu plus théologique là, que je vais vous partager, mais je crois que c'est essentiel. Si j'étais pour vous poser la question, est-ce que tous les péchés sont égaux? Peut-être que vous patineriez un peu, je ne sais pas. Je connais pas toutes vos réponses. Mais pour la plupart du monde, c'est un sujet un peu glissant. Est-ce que tous péchés sont égaux? Je vous dirais que la réponse est oui et non, malheureusement. Les péchés sont tous légalement égaux devant Dieu, dans le sens où les péchés méritent tous la mort pour l'homme. Donc, la sentence légale du péché, qui soit l'adultère, qui soit le vol, qui soit n'importe quoi, un péché légalement vaut la mort. C'est aussi simple que ça. En ce sens, oui, tous les péchés sont égaux. Cependant, ils ne sont pas tous égaux en termes moraux ou en termes de conséquences. Les péchés sexuels sont les seuls dans la Bible qui sont décrits comme une abomination pour Dieu. Dieu décrit ces péchés spécifiquement comme une abomination. L'homosexualité, divers péchés sexuels, il y a toutes sortes de bestialités, toutes ces choses-là sont décrites comme une abomination devant Dieu. On a juste à lire Deutéronome, Lévitique, ça revient souvent, ce genre de langage-là. Et pourtant, ce n'est pas un langage qu'on trouve dans d'autres péchés. Il ne parle pas du vol de cette façon-là. Il ne parle pas de d'autres choses de cette façon-là. Donc, la raison, c'est que créé à l'image de Dieu, on tord l'image de Dieu par le péché sexuel. Par un seul péché, on souille nous-mêmes, on souille une autre personne et on souille Dieu. En un seul péché. Dans 1 Corinthiens 6, 9, ça dit « Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point du royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas, ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères. » Et la liste continue. Donc, les péchés sexuels ont aussi la propriété de briser l'ultime lien du mariage, qui représente, comme on a vu la semaine passée, qui représente le lien entre Christ et son Église. Alors, non, dans ce sens, les conséquences de l'adultère sont devant Dieu ultimement les mêmes que n'importe lequel. Mais les conséquences morales et pratiques du péché d'adultère sont beaucoup plus graves dans nos vies. Et c'est le message de Dieu, je crois, qu'il nous donne dans la Bible quand on regarde le genre de langage, comme j'ai dit, qui est employé quand on parle de péché sexuel. C'est pourquoi la perversion sexuelle est traitée durement dans la parole de Dieu, plus durement que beaucoup d'autres péchés. Le langage employé nous démontre clairement l'absolu dégoût de Dieu pour la perversité sexuelle de l'homme. Dans 1 Corinthiens, verset 6, chapitre 6, verset 18 à 20, on dit « Fuyez l'impudicité. Quelques autres péchés qu'un homme commette, ce péché est hors du corps, mais celui qui se livre à l'impudicité pèche contre son propre corps. Ne savez-vous pas que notre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été racheté à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartient à Dieu. » Donc, c'est en plus un péché qui affecte notre corps. Donc, c'est là que je vais revenir à les sous-points qui étaient en dessous du point, du point 4. C'est les sous-points en dessous du point 6. Voici quatre raisons pour lesquelles le péché de l'adultère est un péché dévastateur et spirituellement sérieux dans la parole de Dieu. Premièrement, parce qu'il brise l'alliance maritale et la confiance qui existe entre un homme et une femme mariée. Un peu comme je vous partageais tantôt, cette confiance qui existe, elle la brise. Deuxièmement, parce qu'elle déshonore, ce péché déshonore Dieu et déshonore l'image de la création de Dieu, c'est-à-dire l'homme. L'homme est l'image de la création de Dieu. Et on déshonore cela avec le péché sexuel. On déshonore notre propre corps. Troisièmement, parce que c'est un péché commis avec délibération intentionnelle. Contrairement à beaucoup d'autres péchés qui sont plus spontanés ou souvent irréfléchis, le péché de l'adultère est rarement spontané et irréfléchi. C'est presque tout le temps délibéré et réfléchi. Parce que c'est souvent fait dans cachotterie, puis... ce qui le rend encore plus dur à accepter, je crois. À pardonner, je dirais, pas accepter. Quatrièmement, c'est une perversion de l'ordre naturel de la sexualité et de la fonction qui souille littéralement le corps ainsi que l'âme. Donc, comme on vient de voir dans Corinthiens, la perversion sexuelle souille à la fois notre corps et notre âme par un seul péché. Donc, pour finir, il reste 15 minutes. Je voulais pas parler de tout ça sans parler un peu de l'aspect plus pratico-pratique, puis sans vous laisser des conseils que j'espère être judicieux pour combattre la tentation et le péché de l'adultère. Savez, notre responsabilité maritale, c'est de faire tous nos efforts possibles au soutien de notre couple avec l'aide du Saint-Esprit. Évidemment, je dirais que je prends pas la peine de le dire à chaque fois parce que je prends un peu pour acquis que vous le savez, mais je pense que c'est important que je le dise dans le sens que à chaque fois qu'on parle des 10 commandements, que ce soit n'importe quel commandement, si c'était pas de la grâce de Dieu puis de l'Esprit Saint qui vit en nous, il y a personne qui les obéirait, puis on serait tous coupables, ça finirait là. Donc quand je vous exhorte avec ces études, c'est sachant que vous avez l'Esprit de Dieu en vous et que vous pouvez obéir à ses commandements. Et gloire à Dieu que vous le pouvez. Parce que vous ne le pouviez pas quand vous étiez dans votre chair naturelle. Donc, soyez réconfortés. Dieu est bon et saint et juste et nous connaît nos fautes, connaît nos manquements. Et on peut, avec sa grâce, s'approcher de lui et demander pardon. Je ne prends pas pour acquis que tout le monde obéit tout le temps parfaitement les 10 commandements. Moi le premier. Donc, comment on peut combattre la tentation du péché d'adultère? Voici quelques suggestions pratiques que je vous suggère ce matin. Et là, c'est vrai que c'est les points que j'avais mis en dessous de quatre. J'envoie mon ordre à Georges, mais 2 jours après, je révise mon étude bizarre. Mais j'aime ça, vous. Est-ce que vous aimez ça? Est-ce que vous appréciez que. Ouais? Ok. Je vais continuer à le faire. Donc, le premier point que j'ai intitulé « Restez loin du flirt ». Et je vous dirais que malheureusement, beaucoup de croyants, beaucoup de chrétiens, s'adonnent à une forme de flirt avec le sexe opposé. Restez loin, évitez, ouais. Restez loin, c'est éviter, ouais. Synonyme. Donc, souvent, dans le contexte du travail, ça peut être un problème. Pour beaucoup de gens, mais aussi dans le contexte de l'Église, malheureusement, ça peut être un problème. Donc, nous devons être extrêmement vigilants de garder nos cœurs contre cette forme de flatterie, sexuelle ou, en tout cas, mal intentionnée. La fidélité que nous devons à notre partenaire dans le mariage est aussi dans nos relations interpersonnelles avec les autres. Si vous. On peut définir flirter comme. J'ai pris une définition sur Internet, là, mais je crois qu'elle est juste. Ça dit l'action de faire la cour à un homme ou une femme pour obtenir quelque chose de lui, généralement pour établir une liaison amoureuse, avec la volonté d'établir une proximité. Donc, le flirt n'est pas neutre. Ce n'est pas simplement d'être gentil avec quelqu'un, là. Okay, il y a comme une différence. On peut être gentil avec les gens. C'est pas nécessairement un flirt. Mais parfois, ce type d'attitude est subtil et je vous dirais, les gens vont être très prompts à se défendre si on les accuse de flirter avec nous ou avec d'autres gens. C'est une attitude pourtant courante chez certaines personnes et qui se voit, en tout cas, assez facilement si on a un petit peu de discernement. Mais évidemment, on n'est jamais coupable de ça. Où on est prompt à se défendre, mais il faut comprendre que même le flirt en soi est une forme d'adultère mental. L'acte sexuel de l'adultère ne commence jamais seul, OK? Ça arrive jamais tout seul, l'adultère. On n'est pas en train de marcher dans la rue, puis soudainement, on commet l'acte sexuel de l'adultère. Ça ne marche pas comme ça, ça ne fonctionne pas comme ça. Ça commence par le flirt, ça commence par des liaisons malsaines, et ça finit par l'acte sexuel. Donc, c'est au début de la chaîne qu'il faut faire attention. C'est pas à la fin. À la fin, il est souvent rendu trop tard. Donc, ces passions, comme on l'a vu dans 1 Corinthiens, tantôt, ces passions en nos membres et la convoitise se développent à partir de ces choses-là. Donc, le flirt, en ce sens, c'est une genre de bougie d'allumage très dangereuse qui mène à l'acte en soi. Et je vous dirais en ce sens, garder une certaine distance émotionnelle et physique avec des personnes du sexe opposé. Ne soyez pas trop souvent seul avec une femme et trop intime dans vos conversations seules avec une femme ou un homme du sexe opposé, dans le fond. Ça ne veut pas dire d'être hypocrite avec les gens, qu'on ne peut pas être réel et avoir une vraie conversation. Mais soyez conscient que vous êtes plus faible que vous pensez l'être. Il vaut mieux paraître un peu froid, des fois, que de vivre dans la tentation perpétuelle de commettre l'adultère. Il y a beaucoup d'autres contextes plus publics dans lesquels on peut discuter librement en présence de notre conjointe, par exemple, avec des gens du sexe opposé. Il y a plein de contextes dans lesquels on peut le faire, puis c'est mieux. Ne soyez pas trop souvent seul. Personnellement, je vais vous dire, je vais vous partager, j'ai beaucoup de difficultés à croire en des relations amicales profondes, que ça peut être sain entre des gens de sexe opposé, autre que notre conjoint. C'est de se placer, selon moi, dans une position extrêmement vulnérable. Ça peut aussi facilement être une source de jalousie pour notre partenaire. Et je vous dirais, selon moi, une saine jalousie, là. Alors, soyez sages dans vos relations interpersonnelles. Reconnaissez que vous êtes faible dans vos pensées. Et ne pensez pas que vous êtes fort et que vous êtes à l'abri de ces choses. Parce que la Bible nous le dit, que celui qui croit être fort prenne garde de tomber. Personne n'est à l'abri de ses péchés sexuels, de l'adultère, que ce soit mental ou que ce soit l'acte. Il faut se garder de ces choses et la proximité avec les gens du sexe opposé devrait être quelque chose qu'on gère de façon sage dans notre vie, je crois. Deuxième point, je pense que ça suffit pas, en tout cas, voilà. Brider votre regard. Brider votre regard. Donc, les yeux sont le point de départ, souvent, de la convoitise. En tout cas, pour des hommes, c'est souvent comme ça. Puis, pour des femmes aussi, je pense. Chez plusieurs personnes. C'est pourquoi il faut se garder de ce fameux deuxième regard. Vous savez, la deuxième fois qu'on regarde, c'est la fois de trop. Ce qu'on met devant nos yeux nourrit notre pensée. Donc, il faut, en ce sens, brider nos regards. C'est comme un cheval qui fait de la course, là. On est concentré. Concentré sur notre couple, notre femme, notre mariage. Comme on dit, il faut avoir que des yeux que pour elle. Mais de voir une belle femme et de reconnaître sa beauté, c'est pas immoral en soi. Mais ce que je veux dire par brider notre regard, puis le deuxième regard, c'est de se retourner pour regarder une deuxième fois. C'est souvent de la convoitise et de l'immoralité. Vous savez de quoi je parle. Donc, empêchez vos yeux, votre tête de jeter ce second regard. Bridez vos yeux en ce sens, et ça va vous garder de cette convoitise qui peut se développer dans vos cœurs. Donc, si vous voyez une belle femme, un bel homme, c'est correct de reconnaître sa beauté. Regardez pas une deuxième fois. Troisièmement, évitez la perversion sexuelle. Donc, sans entrer dans les détails et les spécificités, je vous exhorte de ne pas être pervers à l'intérieur de votre vie sexuelle, même à l'intérieur du mariage. Ayez une relation physique saine et plaisante. Saine et plaisante. Mais ne tombez pas dans la perversité ensemble. Soyez sobre dans vos relations sexuelles comme dans toute autre chose dans votre vie. La sobriété a meilleur goût dans tout, que ce soit sexualité, alcool ou n'importe quoi. Vous savez, Hollywood veut nous faire croire qu'une relation sexuelle épanouie est une relation bruyante, folle et incontrôlable, tellement que c'est passionné, mais c'est faux. Ce n'est vraiment pas la définition biblique d'une relation sexuelle saine. C'est totalement possible d'avoir une relation sexuelle plaisante et saine dans le contrôle, dans la sobriété. C'est absolument possible. Même dans ce qui est plaisant et bon, c'est possible de perdre le contrôle et d'être immoral. Donc, à chacun de nous de rester à l'intérieur des limites saines et de ne et de s'y restreindre. Et je vous dirais, ces limites-là, d'ailleurs, ne sont pas si restreignantes, là. Je suis pas en train de dire qu'il y a une seule façon de faire l'amour, là, puis que toute chose à part de ça est comme péché. Mais ce que je vous dis, c'est de on doit considérer ces choses avec sagesse aussi, pour prévenir la corruption de nos cœurs, premièrement, et rester loin de toute immoralité sexuelle, telle que l'homosexualité, la bestialité, les orgies, et toute autre espèce de déviance sexuelle que la Bible décrit comme abominable. Restez loin. Je crois que j'ai pas besoin d'aller dans plus de détails, vous comprenez ce que je veux dire. Quatrièmement, considérez l'engagement, où l'engagement doit venir avant le plaisir. L'engagement doit venir avant le plaisir. Celui-ci concerne aussi les célibataires parmi nous. Et les gens mariés, là, les deux. Mais pour ne pas commettre l'adultère, considérez votre engagement et votre devoir d'époux ou d'épouse ou de futur époux ou épouse avant de considérer le plaisir sexuel. La sexualité est un cadeau à l'intérieur du mariage que Dieu nous donne, mais elle n'est pas la raison de celui-ci. Donc la raison qu'on se marie, ce n'est pas parce qu'on veut faire l'amour. C'est pas la raison qu'on se marie. Il est sage de se marier pour ne pas brûler, comme la parole de Dieu dit. Donc, c'est sage de ne pas nécessairement rester éternellement dans le célibat toute notre vie si on a toujours ces tentations. Mais il est aussi sage de contrôler ses envies et de choisir un homme ou une femme adéquate pour nous, sans avoir seulement à penser d'avoir la licence. C'est un peu de même qu'on le disait quand on était jeune, avoir la licence. Même à l'intérieur du mariage, il faut rester conscient que nos responsabilités maritales sont plus prioritaires que le plaisir sexuel. Je crois que ça va de soi, mais c'est quand même bien de le dire. Et finalement, dernier point pratique pour vous aider ce matin, faites attention à l'Internet. Et je crois que je n'ai pas le choix d'en parler dans notre monde aujourd'hui. Prenez les précautions nécessaires pour ne pas être tenté par l'accessibilité sexuelle qui existe aujourd'hui dans notre monde, et majoritairement par l'Internet, la télévision ou d'autres sources de médias. Vous savez, ce n'est pas seulement un problème d'hommes. Il y a comme cette fausse mentalité là, qu'il y a juste les hommes qui sont pervers sexuels dans le monde. Oubliez ça, là, c'est faux. En fait, de plus en plus, les statistiques nous démontrent que beaucoup, beaucoup de femmes s'adonnent à la pornographie. Presque autant, d'ailleurs, je pense, dans les statistiques. Ouais. Donc, ce n'est pas seulement un problème d'homme, c'est un problème d'homme avec un H majuscule, un problème de péché. Si vous voulez savoir qu'est-ce qui tue un mariage très rapidement, ça tue un mariage assez rapidement. La pornographie est dite faire le même effet sur le cerveau que les drogues fortes. Ce n'est pas moins grave ou plus acceptable parce que ce n'est pas un acte interpersonnel. Ce n'est pas moins un adultère parce qu'on ne le fait pas avec quelqu'un d'autre. C'est autant une perversion, une immoralité sexuelle. C'est tout de même une violation de la fidélité qu'on doit à notre épouse, notre époux. Et je vous dirais, pour vous aider dans cela, confessez-vous à Dieu si c'est le cas. Si vous combattez avec ça, cherchez un soutien chez des gens sages alentour de vous, à qui vous pouvez avoir confiance, évidemment. C'est un péché qui est rampant, comment dire en anglais, ça se dit en français, ouais, qui se développe très rapidement depuis 10, 15, 20 ans. À cause de l'accessibilité qu'on a à toutes ces choses qui sont un peu nouveaux dans le monde, puis qui sont quelque chose avec lequel on doit tous combattre. Donc, c'est un péché qui est de loin, je dirais, la plus grande source de convoitise aujourd'hui. C'est de loin la plus grande source de convoitise pour les gens. Alors, vaut mieux, comme le passage qu'on a lu tantôt dans Matthieu 5, vaut mieux se couper du monde, se couper le bras, s'arracher l'œil, évidemment c'est un langage qui est symbolique, métaphorique dans la parole, là, mais vaut mieux se couper de l'Internet, de la télévision, faites ce qu'il faut pour sauvegarder votre mariage, pour vous garder pur. Faites ce qu'il faut. Et votre compte bancaire, effectivement. D'ailleurs, je les ai pas mis parce que je savais que ça allait être trop long puis que j'aurais pas pu les faire, mais à l'endo, il y a comme les conséquences pratiques de l'adultère selon Thomas Watson, puis justement, numéro 5, vous allez voir, hein, nuit aux finances. Puis c'est une réalité, autant que historiquement, les gens allaient dépenser leur argent dans la prostitution puis commettaient des vices sexuels, autant qu'aujourd'hui, l'Internet fait la même chose. C'est juste on a changé la façon qu'on le fait, mais même péché. Donc, c'est intéressant, si vous voulez le lire, là, je le ferai pas. Mais en conclusion, j'aurais aimé voir avec vous ce matin, très rapidement, l'exemple de David et Bathsheba, qui, évidemment, est un exemple d'adultère qui nous est donné dans la parole de Dieu. Je ne lirai pas tout le texte, je pense qu'on connaît plus ou moins l'histoire assez pour que je puisse en parler sans lire le texte, mais si jamais vous voulez la lire, c'est dans 2 Samuel 11 et chapitre 12 qu'on retrouve un peu comme tout le contexte de l'histoire, 2 Samuel 11 et 12. Mais vous savez, ça commence au verset 2, je crois, du chapitre 11, quand David voit Bathsheba sur le toit. Donc, premièrement, on voit qu'il y a une tentation par les yeux, par le regard. Donc, David n'a pas bridé son regard, il a regardé. Puis c'est de là que la convoitise est partie dans son cœur, le désir de commettre l'acte. Donc, deuxièmement, est venue la convoitise dans son cœur. Et ça, on le voit parce qu'il s'informe. Il s'informe à savoir c'est la femme de qui ou c'est qui ça. Il va voir son officier puis il prend des informations sur la personne. Et troisièmement, là, il commet l'acte d'adultère. Il fait aller chercher Bathsheba par les soldats qui l'apportent. Puis il n'y a pas vraiment de détails, mais on sait qu'ils ont couché ensemble puis qu'ils ont commis l'acte d'adultère sexuel. Quatrièmement, après, on voit que là, David est pogné dans une situation avec le mari de Bathsheba puis il va avoir complot et meurtre en plus d'adultère. Donc, David va faire envoyer le mari de Bathsheba aux lignes de front. Donc, il savait très bien que ceux qui allaient aux lignes de front, ils mouraient, là. Il fallait pas être un maître tacticien de la guerre pour savoir ça. Donc, c'est vraiment délibéré. Il l'envoie vraiment se faire tuer. Donc, dans son intention, c'était un meurtre, là. Même si c'est pas physiquement lui qui le tue, c'est un meurtre. Puis après, on voit que un envoyé de Dieu vient le voir, le raisonne, parce qu'on voit qu'il est en grand chagrin, évidemment, il réalise tout ce qu'il a fait, là. Puis là, après ça, il y a repentance et regret. Puis si je me trompe pas, ça prend quand même un certain temps. Puis il finit par se repentir et avoir beaucoup de regrets. On voit qu'il prie toute la nuit et demande pardon. Puis ultimement, la conséquence de son adultère, c'est qu'il perd son fils. Donc, la conséquence réelle de son adultère reste quand même très amère. Même si Dieu le pardonne, même s'il reste l'homme selon le cœur de Dieu, les conséquences de son adultère sont sévères, sont réelles, ils sont amères. Dieu le punit quand même. Il ne permet pas à son fils de survivre. Mais vous savez, dans tout ça, ce que je voulais vous partager en conclusion, c'était que l'espoir du pardon et de la délivrance est toujours là, même malgré l'adultère. Il ne faut pas faire l'erreur de croire qu'il n'y a pas de conséquences à l'adultère, parce qu'il y en a. Mais il faut être conscient que ce péché apporte souvent plus que d'autres péchés en termes de conséquences. Et même, je crois qu'on doit être prêt à être repentant et à pardonner si ça nous arrive à nous, c'est fait contre nous, je veux dire. Mais il faut, comme David, revenir à Dieu après nos transgressions. Donc, il n'y a pas de péché trop grave qu'on ne peut pas retourner au pardon de Christ. Donc, il n'y a pas de faute que le sang de Christ ne peut laver pour un croyant. Mais il faut toujours garder en perspective qu'on doit être prêt à accepter les souffrances et les conséquences de notre péché quand c'est le cas. Mais comme David, on doit vivre dans l'espérance que Dieu est fidèle et surtout prendre plaisir en sa loi pour éviter de telles situations dans notre propre vie, dans notre couple, dans notre mariage. Ça a une répercussion sur tout. Puis je pense que c'est pour ça que David, dans le psaume 119, par exemple, revient toujours avec l'idée de prendre plaisir en sa loi. Tu sais, quand on fait une étude sur les 10 commandements, mais je fais pas une étude sur les 10 commandements pour vous dire comment il faut que vous agissiez, qu'est-ce qu'il faut que vous fassiez pour être des bons chrétiens. Puis je fais une étude sur les 10 commandements parce que je sais que, par la grâce de Dieu, en obéissant, en aimant sa loi, ça nous apporte à la sainteté. Il n'y a pas d'autre moyen de devenir saint que d'obéir à Dieu puis à sa loi. Il n'y en a juste pas. Et puis c'est pour ça que c'est important. C'est pas juste pour le bien. C'est pas juste parce que je veux être légaliste puis je veux vous donner des choses à faire. Puis si vous ne faites pas ces choses-là, vous n'êtes pas des bons chrétiens. Ça n'a aucun rapport. C'est parce que tout comme David, aimer la loi nous apporte plus proche de Dieu et plus proche de cette vie sainte, sanctifié, que l'on doit espérer pour nous en tant que croyants. Finir par la prière. Merci Seigneur de ta fidélité envers nous. Merci de ton pardon Seigneur. Et on veut te demander pardon Seigneur parce qu'on est certainement coupable à bien des niveaux Seigneur d'adultère, que ce soit dans notre mariage ou dans notre relation avec toi Seigneur. Pardonne nos cœurs. Pardonne-nous, Seigneur, d'être si facilement corrompus par le péché. Garde-nous, Seigneur, de ce péché. Donne-nous d'aimer ta loi, d'aimer tes commandements, de prendre plaisir, Seigneur, en ces choses que tu aimes. Nous prions ce matin, Seigneur, que tu fasses de nous un peuple saint, non pas parce qu'on veut se péter les bretelles, mais parce qu'on veut que les gens, Seigneur, reconnaissent ta face quand ils nous regardent. Et parce qu'on veut que l'Église, Seigneur, d'Actonville soit un flambeau de ta sainteté dans le monde. Amen.
Amen.
Genre.